Bonsoir amis de la radio Armada, bienvenue en direct ce mercredi soir avec Jean-Pascal pour sa revue de détail. Revue de détail, c'est comme vous le savez maintenant, l'actualité des réseaux sociaux décryptée spécialement pour vous tous les mercredis de 18h à 18h30. Une semaine d'actu analysée sous l'angle politique critique de la radio vis-à-vis des pouvoirs en place. Et cette semaine le thème, la crise, point d'interrogation, pas pour tout le monde. On va commencer tout de suite avec notre rubrique argent. On apprend sur le réseau LinkedIn que la dégradation des perspectives économiques pèserait sur le moral des décideurs, cela selon le dernier baromètre Via Voice. En mai, l'indice qui évalue le moral des patrons a ainsi reculé de 43 points pour atteindre son niveau le plus bas depuis 6 ans. Près de 90% des cadres et dirigeants s'attendent ainsi à voir augmenter le chômage dans les mois à venir. On aurait vraiment aimé savoir combien ces perspectives pèsent sur le moral des dizaines de milliers de salariés qui vont connaître, après le chômage technique, le chômage tout court. Ou encore le moral des précaires, des intermittents, des survivants de petits boulots. Bref, tous ceux que la crise va laisser dans le fossé. Mais le baromètre Via Voice n'est sensible qu'aux premiers de cordée qui se sont certainement donné bonne conscience en applaudissant les autres, les derniers de cordée qui sont restés au front, ceux dont le moral, hélas, n'intéresse presque personne. Le directeur général d'Air France KLM va-t-il toucher 800 000 euros de bonus ? L'activité de l'entreprise est quasiment à l'arrêt du fait de la crise sanitaire, mais son patron, lui, va toucher plusieurs centaines de milliers d'euros au titre de l'exercice 2019. Une décision qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, car dans le même temps, Air France KLM va bénéficier d'un prêt exceptionnel de 7 milliards d'euros de la part de la France, et de 2 à 4 milliards de la part des Pays-Bas. Pays-Bas qui, eux, ont voté contre cette résolution, selon la presse néerlandaise, qui rapporte les propos du ministre des Finances, je cite, « Il faut beaucoup d'argent des contribuables pour aider les entreprises et les employés dans cette crise. Ce n'est donc pas le moment de défendre les bonus des dirigeants d'entreprises. » Fin de la citation. À l'inverse, la France a bien voté en faveur du versement de ce bonus. Le cabinet du ministre de l'économie Bruno Le Maire s'en explique, je cite, « La part variable de Benjamin Smith, c'est le fameux patron, attribuée au titre de l'exercice 2019 est relative à l'exercice de sa fonction dans un contexte qui était pleinement antérieur à la crise du Covid. » Le cabinet poursuit, « C'est donc un droit acquis pour une performance passée qui n'a pas vocation à être remise aujourd'hui en cause. » Mais le cabinet précise quand même, l'encaissement effectif de la somme a été repoussé à la fin de l'année 2020 afin de ne pas peser sur la trésorerie au plus fort de la crise. Fin du communiqué. On respire. Dans le même temps, le directeur général d'Air France KLM a annoncé par voie de communiqué, je le cite, « renoncer à 25% de ma rémunération pendant la crise liée au Covid-19 ». Dans le contexte de la période très difficile que traverse le groupe, cet engagement de réduction implique évidemment l'abandon, je le cite, de ma rémunération variable annuelle, ce qu'on appelle le bonus, au titre de l'exercice 2020. Fin de la citation. On lui décernerait presque une médaille. Mais par ailleurs, si le directeur général renonce à sa part variable annuelle pour 2020, il pourra en revanche, écoutez bien, prétendre à sa part variable de long terme pour cet exercice en fonction de certains critères de performance. Ah, quand même, on a failli le croire philanthrope, ce brave monsieur. Mais que l'on se rassure, cette part variable ne sera pas versée avant 2022. Et d'ici là, qui sait ? Voilà, fin de la rubrique argent, sauf pour notre première pause musicale, et on va écouter Jeanne Masse chanter un titre de circonstance, s'envoler jusqu'au bout. On l'écoute, on se retrouve juste après. On se retrouve donc pour la suite de cette revue de détails, et là maintenant, notre deuxième rubrique, les empaffés du PAF. Alors le 24 mai dernier, Jean-Jacques Bourdin a vraisemblablement voulu défier le code de la route. Le journaliste de BFM TV a été contrôlé sur l'autoroute à 186 km/h au lieu des 130 autorisés. C'est le site du journal La Montagne qui a indiqué que Bourdin avait été arrêté par les gendarmes de Saint-Flour sur l'autoroute A75. Le journaliste n'a pas bénéficié de traitement de faveur puisque, toujours selon nos confrères, il a écopé d'une rétention administrative du permis de conduire ainsi que d'une amende de 135 euros. C'est le tarif. Et son véhicule a quant à lui été immobilisé. En apprenant la nouvelle, les internautes n'ont pas tardé à attaquer ce principal intéressé qui a souhaité faire une mise au point sur les réseaux sociaux. S'il a reconnu son excès de vitesse, il se défend d'avoir enfreint la règle sur les déplacements autorisés. Je le cite, « À tous les donneurs de leçons, excès de vitesse, oui et j'assume, interdiction de déplacement, non, j'avais même une double autorisation. » Alors si Bourdin s'est montré quelque peu agacé par ses critiques, il a pu compter sur le soutien de sa femme Anne Niva pour voler à son secours. Dans un premier tweet, elle a déclaré, je cite, « Sur autoroute, un conducteur commet un excès de vitesse, le reconnaît et signe son PV. Ça arrive tous les jours, sans sortir dans les médias. Quand c'est Jean-Jacques Bourdin, par contre, la Montagne se jette sur l'info. Qui l'a fuité ? » demande-t-elle. « Le sous-off qui a verbalisé ? » question. « Honte à eux deux, attention à la diffamation. » Mais l'épouse de Bourdin ne s'est pas arrêtée là. Deux autres tweets ont suivi. dans l'un d'eux. Elle est même allée jusqu'à imaginer, oui, un complot dirigé contre son mari, je la cite. La vérité, c'est que quand le grand public se repaît de l'intimité de ceux qu'il aime ou déteste, c'est ainsi la notoriété, il y a de fait, Jean-Jacques Bourdin a roulé trop vite, comme ça peut arriver à beaucoup de Français, et cela a été durement sanctionné. Quelqu'un, par contre, a sorti l'info pour nuire et se faire mousser. Fin de la citation. Mais voilà un discours qui n'a pas vraiment convaincu les internautes. Je cite ce qui est écrit sur les réseaux. Ce n'est pas un simple excès de vitesse. 186 km/h, c'est un grave délit qui met en danger la vie des autres, a rappelé l'un d'entre eux. Autre citation d'un autre. Quand on fait la leçon à longueur d'antenne sur MRC, en particulier, RMC, pardon, en particulier sur la sécurité routière, on se doit d'être exemplaire. Et nous, on rajoutera, quand on se met en scène tous les matins sans souci d'écouter d'abord, avant de s'écouter parler, on s'expose au retour de bâton. Faut assumer, chers collègues. Patrick Sébastien a donné des précisions sur l'échange téléphonique entre le chef de l'État et l'humoriste Jean-Marie Bigard. Il a confié, je crois que le président est quand même assez fâché. Sébastien, qui a joué les intermédiaires en fournissant le numéro de téléphone de l'humoriste, a raconté qu'il y a à peu près un mois, il a reçu un message d'Emmanuel Macron, avec qui il avoue échanger des messages de temps en temps, message lui disant qu'il avait vu que Bigard avait été brimé. Et donc, raconte Sébastien, le président me dit, je voudrais joindre Bigard pour lui dire que moi, je ne suis pas comme ça et que je suis pour la liberté d'expression. Fin de la citation du président. Donc, poursuit Sébastien, la volonté du président était de parler à Bigard, d'être sympa avec lui, quoi. En aucun cas, Macron appelait Bigard pour lui parler de politique ou pour le consulter sur quoi que ce soit. Voilà ce que dit notre ami Sébastien. Mais alors, pourquoi tant de foin sur cette affaire? De là à penser que le président recherche un nouveau Coluche? Bon, assurons-nous, il y a encore du boulot. Et tandis que Bigard explique qu'il pourrait, je cite, « se laisser tenter par une candidature à la présidentielle en 2022 », le nom de Cyril Hanouna, et oui, circule aussi. Et quand bien même l'animateur télé a assuré qu'il ne souhaitait pas faire campagne pour un mandat électif pour le moment, une copie d'écran partagée sur Twitter rappelle une information annoncée par le site capital.fr en début d'année. On y découvre que la marque Hanouna 2022 a été enregistrée à l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, par l'avocat de la star de C8. Ce nom est désormais protégé dans pas moins de 8 classes de produits et de services. Et oui. Un proche d'Emmanuel Macron expliquait en février sur BFM Télé, le risque pour nous serait l'émergence d'un phénomène à la Coluche. Ah ben non, c'est déjà pris par Bigard. Va falloir trouver autre chose. Toujours sur BFM, Bigard s'est quant à lui montré de nouveau très critique envers la classe politique et les membres du gouvernement. Citons entre autres des tocards ou encore Parlement et gouvernement, ça finit par ment, du verbe mentir. Ou bien enfin, le jour où le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très très mal. Il va falloir que des têtes tombent. Fin de la citation. On s'est donc trompé, chers amis auditeurs. Bigard ne veut pas devenir le nouveau Coluche, mais carrément Robespierre. Et du coup, on ne peut pas passer sous silence cette dernière. Invitée sur RMC le 28 mai, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchal, en a profité pour dire à Bourdin ce qu'elle pensait de l'appel d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard. Et elle n'y serait pas allée de main morte. Je la cite, « Je préfère parler à la radio que passer des coups de fil à des humoristes. » Fin des citations. Voilà ce qu'a lancé celle qui, effectivement, ne manque pas un micro tendu. Elle n'a pas marqué des points en perspective du remaniement, a du coup rétorqué un des soutiens du président. Entre Madame Je sais tout et un président Je sais tout, il y en a forcément un de trop. Mais que l'on se rassure, il se dit que Macron peut tout de même compter sur un tout soutien de taille en la personne de Nicolas Sarkozy, oui, qui n'hésite pas à voler à son secours, pointant du doigt, je cite, les ricanements faciles. On a vraiment les soutiens qu'on mérite. On change de rubrique et on passe à notre rubrique internationale. Tunisie, tout d'abord. Une internaute est poursuivie pour, je cite, atteinte au sacré et aux bonnes mœurs, après avoir partagé sur Facebook une parodie du courant. Emna Sharkey avait posté le 4 mai sur sa page Facebook une publication d'un utilisateur étranger parodiant le Coran, intitulée Sourate Corona. Le post évoque la pandémie du Covid-19 en imitant le style du texte sacré. Bien, des poursuites ont été lancées deux jours plus tard contre la jeune femme pour, je cite, atteinte au sacré aux bonnes mœurs et, je cite encore, incitation à la violence. L'internaute est poursuivi en vertu de l'article 6 de la Constitution qui stipule que l'État protège la religion. Mais en même temps, la loi fondamentale votée en 2014 dans le sillage de la Révolution et fruit d'un compromis historique prévoit que l'État, je cite, garantit la liberté de croyance et de conscience. Fin de la citation. Mais, donc, cette loi fondamentale s'engage dans le même temps à protéger le sacré et empêcher qu'on y porte atteinte. Fin de la citation. Les barbus ont hélas encore de beaux jours dans le pays de la révolution du jasmin, hélas. Le Parlement chinois a adopté jeudi à la quasi-unanimité une disposition controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, prise en réaction aux manifestations monstres et aux violences de l'an dernier dans l'ex-colonie britannique. Sans surprise, les près de 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire ont adopté la mesure, mesure qui a déjà provoqué un regain d'agitation dans la région autonome du sud de la Chine et enclenché un processus de sanctions de la part des États-Unis. Cette loi devra, je cite, « empêcher, stopper et réprimer toute action qui menace gravement la sécurité nationale, comme le séparatisme, la subversion, la préparation ou la commission d'activités terroristes, ainsi que les activités de forces étrangères qui constituent une ingérence dans les affaires de Hong Kong. » Voilà, fin de la citation. À Hong Kong, les démocrates opposant l'influence du gouvernement central dans le territoire affirment, eux, que la mesure ouvre la voie à une régression sans précédent des libertés dans la métropole financière de 7 millions d'habitants. Allons, allons, faut pas empêcher le capital fructifié, messieurs. Un peu de bon sens tout de même. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président des États-Unis, il faut bien en parler, a publié, comme à son habitude, une série de tweets pour condamner les manifestations ayant lieu à Minneapolis suite à la mort de George Floyd durant son arrestation par la police municipale. Donald Trump explique, pas moins dans ce tweet, avoir contacté le gouverneur de l'État du Minnesota, dénommé Tim Walz, et lui avoir proposé l'aide de l'armée pour contenir les mouvements de protestation, tout en ajoutant que, je le cite son tweet, « quand le pillage commence, les tirs commencent aussi ». C'est d'ailleurs cette dernière phrase qui a déclenché la procédure de modération du message. Le tweet est désormais masqué dans les fils d'actualité, mais pas retiré. Je cite Twitter, « nous avons pris des mesures pour empêcher que d'autres personnes soient incitées à commettre des actes violents, mais nous avons gardé le tweet sur Twitter parce que, je cite, écoutez bien, il est important que le public puisse toujours le voir, étant donné sa pertinence pour les questions d'importance publique en cours. Voilà ce qu'a précisé Twitter. Étant donné sa pertinence, écrit Twitter, le tweet justifie le tir à vue sur les émeutiers. Mais restons zen. Le réseau a pris des mesures pour empêcher les actes violents. On a eu chaud. Pas autant que Trump, pourtant, en ce moment, barricadé au sous-sol de la Maison Blanche. Par contre, plusieurs manifestations et de salariés, de plusieurs dizaines de salariés de Facebook se sont mis en grève ce lundi. Un mouvement social peu commun au sein de l'entreprise qui fait suite à la décision de Mark Zuckerberg de ne pas censurer les messages postés par le président américain sur le réseau social. Messages dans lesquels il menace de violence les personnes qui manifestent suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Eh bien, bravo les salariés, les empires vacillent et ça fait du bien. Eh bien, nous arrivons à notre deuxième pause musicale et nous allons écouter Along the Watchtower, un titre de Bob Dylan en 67, qui est là interprété par Jimi Hendrix, immense guitariste américain, et on a sorti ce titre d'un carré noir en hommage à la famille de George Floyd. On l'écoute.
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Voilà, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Il faut rappeler que c'est la bande-son du film de Scorsese, Il était une fois le Bronx. On va passer à notre rubrique, il n'en rate pas une. Gérard Collomb, ville de Lyon. Eh bien, Gérard Collomb s'allie à la droite et lui cède la tête de liste pour l'élection métropolitaine. Le maire de Lyon a annoncé jeudi s'effacer derrière le candidat les Républicains, François-Noël Buffet, pour la stratégique présidence de la métropole lyonnaise. Pauvre Gérard Collomb, il a été membre du PS pendant 38 ans, avant de rejoindre Macron, et il termine sa carrière par une alliance avec la droite. Coronavirus, la préfecture de police interdit une marche pro-migrants à Paris. L'appel à cette marche des solidarités pour demander une régularisation des sans-papiers et une révision de la politique migratoire française avait été relayé par près de 210 organisations et 300 personnalités, selon un texte diffusé sur les réseaux sociaux. Les promoteurs de la marche estiment que, pour ces populations, la crise sanitaire actuelle est en train de devenir une véritable bombe sanitaire. Promoteurs de la marche qui avaient annoncé une manifestation avec masque et distanciation physique. D'autres rassemblements étaient par ailleurs prévus en France. Interrogée par l'AFP, la préfecture a indiqué, je cite, qu'un dispositif policier sera mis en place pour faire respecter l'interdiction de manifester. Les risques sanitaires qu'un tel événement est susceptible de générer justifient que le préfet de police n'autorise pas, à titre dérogatoire, cette manifestation. Préfet de police de triste facture, on l'a vu lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux laisser les migrants s'entassés dans les meublés des marchands de sommeil et tentés de survivre sans travail. Le risque sanitaire d'une manif est autrement plus grand. Municipal à Paris maintenant, Marlène Schiappa s'oppose à une alliance avec les listes Dati. « Moi, je ne fais pas alliance avec la droite », déclare-t-elle. La candidate LREM dans le 14e arrondissement n'a pas du tout l'intention d'entrer dans des discussions de fusion de listes avec les Républicains. Je ne fais pas alliance avec Rachida Dati, a déclaré Marlène Schiappa jeudi dernier sur France Info, car je préfère perdre une élection que perdre mes valeurs. D'ailleurs, si La République En Marche avait dû faire alliance dans cet arrondissement, ça aurait été avec Cédric Villani. Mais le député dissident a décidé d'y aller seul. En interne, d'ailleurs, dans le 14e, l'utilité de cette alliance soulevait de toute manière moult interrogations. Un colistier de Marlène Schiappa allant jusqu'à expliquer, je le cite, « à l'échelle de Paris, le symbole d'un rapprochement avec le candidat dissident a peut-être son importance, mais dans le 14e, si nous faisons alliance avec Villani, cela consistera juste à assurer un poste de conseiller de Paris à celui qui aura divisé nos troupes pendant toute la campagne. » Fin de la citation. Amour de Paris, quand tu nous tiens. Invité du grand entretien sur France Inter, l'ancien président de la République, François Hollande, lui-même a fait son mea culpa. Je le cite, « J'ai présidé la France pendant 5 ans. J'ai ma part de responsabilité aussi dans la situation de l'hôpital. » Fin de la citation. On a écouté pour en savoir plus. Il a rappelé d'abord tout ce qu'il a mis en œuvre pour améliorer la situation des soignants et leur attribuer les moyens de bien faire leur travail. Si, on vous l'assure. Avant de regretter, je cite, qu'on n'ait pas pu aller plus loin. Fin de la citation. On est donc resté attentif. Allait-il dire pourquoi? Allait-il dénoncer la mainmise du libéralisme sur les médicaments? Lui qui n'a pas bronché face aux grands laboratoires. Allait-il fustiger la politique de l'Europe et les 3% obligatoires pour les PIB nationaux? Bah, que nenni. On devra se contenter de savoir qu'il a sa part de responsabilité et que ça l'empêche assurément de dormir en paix. Enfin, on suppose. On finit cette rubrique avec l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, BHL, qui racontait lundi matin sur France Info, je le cite, « Durant le Covid, je n'ai pas bougé de Paris, juste 2 reportages au Bangladesh. » Excusez du peu, bah, décidément, certains n'en ratent vraiment pas une. Et on finit avec notre dernière rubrique, la rubrique « Humour ». Et si la crise du Covid avait eu pour mérite de nous réapprendre les vertus du silence? C'est en tout cas ce qu'affirme Jérôme T, consultant en stratégie, c'est Mastercard Data et Services. Je le cite. Le silence permet à l'homme de laisser une place à la parole d'autrui et de reconnaître son existence, sa légitimité. En donnant droit de citer à sa parole, je reconnais également implicitement que je ne sais pas tout, que je peux apprendre de lui, et qu'il est donc porteur d'une sagesse qui peut m'éclairer. Le silence est l'empreinte de l'humilité. Citons la suite, avec le retour d'une activité prudente dans nos villes, nous retrouvons les voix et les bruits familiers qui s'étaient tus ces dernières semaines. Mais, conclut ce sage personnage, n'oublions pas trop vite tout ce que le silence nous a permis d'entendre. Fin de la citation. Bah en tout cas, Jérôme, vous n'estimez pas que cela puisse s'appliquer aussi à vous, on dirait. On apprend par ailleurs par un journaliste de LinkedIn que, bien que la crise ait eu des effets importants sur le marché du travail, certains secteurs continuent de recruter. Une conseillère Pôle emploi constate en effet des recrutements qui continuent dans les secteurs de la santé, de l'informatique et la télécommunication, ainsi que du nettoyage. Une autre consultante du cabinet de recrutement Robert Half, elle, remarque que la crise sanitaire a amplifié les besoins sur des postes administratifs pour, je la cite, « gérer la paperasse ». Enfin, ensuite, l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, note le maintien de recrutement dans les 3 secteurs traditionnellement les plus pourvoyeurs, l'informatique, le conseil et la gestion des entreprises, l'engineering et la R&D. Enfin, côté start-up, un expert en recrutement estime que les opportunités d'emploi vont continuer d'exister chez les pure players digitaux. Vous avez bien entendu, dépêchez-vous d'apprendre ces métiers parce que le vôtre va bientôt disparaître. Et pour finir en beauté cette rubrique et cette revue de détails, cette citation qui vaut son pesant d'hydroxychloroquine, un expert directeur chez Bain & Company France pense sérieusement que, je le cite, au-delà d'un choc économique et social sans précédent, la crise du Covid-19 a agi à la fois comme un puissant accélérateur des transformations latentes dans les grands groupes en termes de digitalisation, d'innovation et de nouvelles façons de travailler, et aussi comme un révélateur des forces et faiblesses de l'écosystème digital et tech. » Fin de la citation. Eh bien, c'est exactement ce que me disait l'autre soir ma concierge. Enfin, celle de l'immeuble parisien où ma voisine allait faire des ménages au black avant d'être confinée sans ressources. Et voilà, fin de cette revue de détails. On finit toujours avec notre hommage aux soignantes et aux soignants. Soignantes et soignants qui appellent à des rassemblements et des manifestations le 16 juin. Et on leur décerne le titre de Bowie, Heroes. Un qualificatif présidentiel qu'ils ont récusé à juste titre, mais que nous sommes, nous, heureux de leur décerner. Bonsoir, à mercredi prochain, 10 juin.
I'm you. en chinois, en hindi, en portugais, en anglais ou en espagnol, on peut en conclure que son message est universel.
Oui, et que c'est un méga tube. Ce fut le cas pour l'artiste que nous allons accueillir maintenant. En 1988, grâce à son tube, qui porte le nom d'une fête traditionnelle au Bénin, il est devenu le chanteur africain le plus vendu à travers le monde entier.
Voici Mori Kante, Yeke, Yeke.
Baba, Allah ya feria, Arima saya bukan amat.